Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Les maires de la place de Mai.
Quelqu'un me dit qu'il y avait deux femmes qui recherchaient des enfants qui avaient aussi été séquestrées par les militaires. J'ai demandé l'adresse de l'une des deux et j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire, Alicia Subasnar de la Cuadra. Je suis allée chez elle, nous avons parlé pendant toute une journée. Elle m'a raconté ce que j'ignorais, qu'elle en avait rencontré d'autres qui se réunissaient sur la place de Mai. Et ça, je ne le savais pas.
Au long des années 1970, la violence s'était généralisée en Argentine. Le péronisme au pouvoir avait éclaté, les guérilleros, les escadrons de la mort cherchaient la provocation. Au printemps 1976, un coup d'État installe une énième dictature militaire qui se distingue des précédentes par sa volonté d'avancer sans visage. Elle est dirigée par des généraux et des amiraux qui paraissent interchangeables et quotidiennement, elle fait enlever ses adversaires. Les opérations menées dans de longues voitures, vert-olive, sans immatriculation, se font la nuit. Les personnes arrêtées sont enveloppées d'une cagoule, transférées dans des centres de détention dissimulés et on dit ensuite aux familles qu'elles ont disparu. Face à cette situation inédite, la réponse était difficile. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme sont alors intervenues, mais l'opinion internationale a été beaucoup plus sensible au mouvement des maires qui s'est levé timidement le 30 avril 1977. C'étaient des femmes de 40 à 60 ans. Elles étaient lasses d'entendre leurs interlocuteurs dans les commissariats de police et les palais de justice leur dire que non, ils ne savaient pas où avaient pu passer leurs fils et leurs filles, en vacances peut-être. La force dont elles disposaient et qu'elles ignoraient, c'est qu'elles parlaient précisément le langage de la défense de la famille qui se trouvait être aussi celui de la propagande officielle. Surtout, les mères, bientôt rejointes par les grands-mères, réussirent à inventer des moyens de s'affirmer qui leur appartenaient. La ronde, place de Mai à Buenos Aires, au cœur du pouvoir, chaque jeudi, l'usage de signes de reconnaissance, le tout, une fois qu'elles furent assez fortes, dans une certaine bonne humeur, car elles prenaient un malin plaisir à emmener les autorités militaires dans leur chemin de traverse.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
En compagnie d'Alice Verstraeten, bonjour,
bonjour,
qui a publié chez Hermann « Disparition et témoignages », qui travaille depuis de nombreuses années sur la connaissance et la reconnaissance de la disparition. Je vais vous faire jouer le rôle de l'historienne, mais vous êtes d'abord anthropologue, mais pas que. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'écriture qui ne sont pas qu'anthropologiques chez moi. J'essaye d'aller vers la littérature aussi. Et l'art est très présent parce que j'estime que c'est un moteur à deux temps pour moi. Un regard à deux temps sur le monde, on va dire, à la fois l'art et la recherche. Et j'essaye de développer des liens.
Bon, je suis désolé de vous ramener à une histoire un peu positive, du moins au début de cette émission. Le mot disparition, peut-être faudrait-il le dire en espagnol d'ailleurs.
Desaparición.
Ça obéit à une procédure dissimulée, élaborée avant même le coup d'État de 1976.
Oui, le pouvoir argentin a glissé progressivement, en fait, le pouvoir politique a glissé progressivement dans les années 70 de l'emprisonnement politique des opposants vers la disparition forcée, donc de la légalité vers l'illégalité. En Argentine, en 1976, la peine de mort était autorisée, était reconnue. Alors là, ils auraient pu condamner à mort leurs opposants, ils ont choisi de les faire
disparaître. Ils en ont quand même fusillé 15 000, mais ils ont fait disparaître davantage.
Ils ont fait disparaître environ 30 000 personnes. Donc la disparition, elle a commencé en gros l'année 75 par le biais d'Escadrons de la Mort, l'Alliance anticommuniste argentine et le Commando des Libérateurs de l'Amérique, qui étaient pilotés en sous-main par des membres du gouvernement d'Isabel Perón et par le 3e corps de l'armée. Ils ont ouvert les premiers camps de disparition où on enfermait les gens, où on les torturait et on les assassinait avant de faire disparaître leur corps, à Córdoba et à Tucumán, deux villes de l'intérieur du pays. Donc, dès 1975.
Les faits qui sont évoqués ici par Monica Mignonnet, toujours donner les noms des personnes disparues, datent de 1976. C'est toujours la même procédure qu'on retrouve d'une personne à l'autre.
Savez-vous qui l'a emprisonné? Les militaires sont arrivés à la maison, la marine, je crois. Ils ont dit qu'ils voulaient lui poser quelques questions, qu'après elle serait relâchée. À l'époque, elle vivait avec nous. C'était le 14 mai 1976, à 5h du matin. Nous étions si confiants. Il disait qu'il voulait simplement lui poser quelques questions concernant quelqu'un qu'elle connaissait. Plus jamais de nouvelles.
Vous croyez toujours que votre fille grandit?
Je ne perds pas espoir. C'est la seule chose qui nous reste. On a toujours l'impression de la revoir. C'est incroyable qu'une chose pareille puisse arriver. Pourquoi l'ont-ils prise?
Si elle a fait quelque chose,
pourquoi ne l'a-t-on pas jugée? C'est terrible ce qui se passe. Ça fait 7 ans et demi déjà, mais les souvenirs sont de plus en plus forts. Et l'attente est plus forte
que ça.
Si elle a fait quelque chose, on pourrait la juger. La fille de Monica Mignonnet était militante dans un bidonville, elle avait 24 ans. Les personnes disparues pouvaient être des militants plus actifs, des militants armés, mais peu à peu, la cible s'est élargie jusqu'à ce que des indécis eux-mêmes puissent être visés.
Oui, tout à fait. C'est le général Iberico Manuel Saint-Jean, qui était gouverneur de Buenos Aires en 1978, qui disait « Nous allons d'abord tuer tous les opposants, puis leurs sympathisants, enfin les indifférents et après les timides. » Et donc, évidemment, parmi les victimes, il y a des militants de l'ERP, l'Ejército Revolucionario del Pueblo, l'armée révolutionnaire du peuple, qui était guévariste, des militants montoneros, qui étaient péronistes de gauche, socialistes, chrétiens, mais il y a des théologiens de la libération, il y a des syndicalistes en très grande quantité. Le plus grand nombre de disparus, ce sont des ouvriers syndicalistes. Il y a des mères de famille qui cherchaient leurs enfants, etc. etc., etc.
Le pourcentage de femmes, justement, c'est quoi, 30%, un tiers?
Oui, dans les 30%, j'ai plus le chiffre exact en tête. Mais ouais. Donc une bonne proportion d'entre elles étaient jeunes, parce que c'était beaucoup aussi une lutte des jeunes, de la jeunesse inspirée de mai 68, du printemps de Prague, etc., contre l'institution de l'armée. Donc il y avait beaucoup de jeunes, donc beaucoup de jeunes mamans ou de femmes enceintes qui ont été...
Que leur mère admirait d'ailleurs, parce qu'ils avaient fait des études.
Voilà.
Et qu'ils allaient arriver à un stade qu'elle-même avait tenté d'atteindre. Les procédures étaient toujours les mêmes. Dans les camps de disparition, c'est curieux cette expression, camp de disparition. On ne savait pas que c'était des camps. On voyait un château d'eau, on ne savait pas qu'il y avait un centre de torture à l'intérieur.
Voilà, les survivants ont d'abord beaucoup dit centre clandestin de détention. Mais il reste encore le mot détention qui fait croire à quelque chose de légal. Or, c'est pas légal du tout. C'est dans le sous-sol d'un commissariat, c'est dans un garage, c'est dans une péniche dans certains coins, c'est dans un camp d'entraînement militaire, etc. Ce sont des baraquements à part où a lieu la dimension illégale de la répression politique.
Alors, quand vous aviez la chance d'être entre les mains de l'armée de terre et de la police, vous finissiez enseveli dans des fosses communes ou dans des tombes anonymes. Et quand vous aviez le privilège d'être détenu par l'armée de l'air, là, l'acheminement de votre corps se faisait grâce aux appareils de la dite armée de l'air. Témoignage tardif en forme d'aveu unique d'Adolfo Silingo en 1995.
Ils étaient amenés à l'aéroport de Buenos Aires, l'aéroparc, endormis, ou plutôt à moitié endormis, par des doses de somnifères qu'on leur avait injectées. On leur faisait croire qu'ils partaient pour une prison dans le sud du pays. Une fois en plein vol, on leur injectait une deuxième dose très puissante qui les endormait complètement. On les déshabillait et quand les commandants de l'avion donnaient l'ordre et qu'on était en pleine mer, on les jetait un par un. C'est ça la vérité. J'ai participé à 2 vols et je suis responsable d'avoir jeté 13 personnes la première fois et 17 personnes la seconde.
Et quand les corps sont rejetés par la mer, c'est embarrassant.
Quand les corps sont rejetés par la mer, ils sont récupérés par les forces de police sur les plages, qui les ensevelissent anonymement dans des tombes individuelles ou dans des fosses communes.
Le relais est pris par les fantassins. Alors voilà les faits. Le mouvement des maires de la place de mai, chacun le sait, commence donc le 30 avril de cette année-là. Il obéit assez vite à des codes que l'anthropologue que vous êtes, on revient à l'anthropologie, apprécie, parce que ce sont des codes ludiques,
oui,
d'une certaine manière.
C'est des codes vivants, foisonnants, qui vont à l'encontre du monolithe mortifère de la dictature. Le premier d'entre eux, c'était le mouvement, en fait, parce que la manifestation était interdite, donc elles se sont présentées sur la place de Mai, face au siège du gouvernement. Voilà, face au siège du gouvernement, le premier jour, avec interdiction de manifester, donc deux par deux, statiques, et un fantassin a tapé dans ses mains en leur disant de circuler. Et donc elles se sont mises à circuler littéralement, c'est-à-dire à tourner en rond. Déjà là, c'était la première fois qu'elles prenaient à revers, qu'elles déjouaient les injonctions d'ordre. Et le fait d'être des femmes leur a permis, vous l'avez souligné tout à l'heure, de passer des barrières. Parce que la femme, dans l'idée de la dictature, elle était dévolue au foyer et à l'éducation des enfants. Donc elle ne venait pas là pour des revendications politiques, elle venait dire « je suis une mère qui cherche son enfant ». Vous ne pouvez pas retirer à une mère le droit de savoir où est son enfant. Et là, la dictature était un peu prise de court. Elles ont très rapidement trouvé un signe de reconnaissance qui était un foulard blanc qui rappelle le linge de leurs enfants, qu'elles avaient toutes chez elles. C'était le seul point commun qu'elles avaient parce qu'elles venaient d'horizons politiques et sociaux très différents. Le seul point commun, c'est qu'elles avaient encore les langes de leurs enfants. Donc se les mettre sur la tête pour être la présence que le pouvoir renie à leurs enfants. Et puis petit à petit, elles ont commencé à écrire et à broder dessus les noms de leurs enfants, leur date de disparition et des slogans comme « Apparition en vie » de tous les détenus disparus. Petit à petit, on a commencé à comprendre que les gens n'allaient pas réapparaître vivants et donc les slogans ont évolué. Mémoire, vérité et justice. Elles brandissent des photos de leurs proches. Il y a une mère, par exemple, qui avait fait un grand panneau et qui présentait la chemise de son fils. La chemise que son fils portait le jour où il a été enlevé par un escadron. Elle a essayé de retenir son fils. L'escadron tirait de l'autre côté, évidemment, était beaucoup plus costaud qu'elle. Et donc son fils est parti. Et elle est restée avec la chemise de son fils entre ses mains. Et donc elle manifestait comme ça avec la chemise de son fils.
À l'automne 1977, le mouvement a failli être interrompu, infiltré qu'il était.
Oui.
Par le beau bourron blanc. Celui qu'on a, ce qui s'appelait le capitaine Astiz.
Alfredo Astiz, qu'on a appelé l'ange blond de la mort, qui se faisait appeler l'ange blond de la mort. Il s'est fait passer pour un proche de disparu, avec un pseudonyme très très cynique, Gustavo Niño, donc Gustavo enfant, nom de famille. Et le maire de la place de Mai avait une grande confiance en lui. En décembre 1977, elles étaient réunies à l'église Santa Cruz à Buenos Aires pour réunir des fonds, pour pouvoir publier dans la presse quelque chose dans les jours qui suivaient. Et il les a désignés comme ça, en donnant des pièces de monnaie à quelques-unes d'entre eux. Il les a désignés à des complices, à quelques-unes d'entre elles, pardon. Il les a désignés à des complices et elles ont été enlevées ce jour-là. La fondatrice vraiment du mouvement, Azucena Villaflor de Vicente, a été enlevée deux jours plus tard, elle, en pleine rue. Et elle avait déjà compris le principe de dépersonnalisation, de la disparition. Donc elle a hurlé son nom dans la rue au moment où on l'enfermait dans une voiture.
C'est le moment aussi où deux religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet, sont enlevées, ce qui ne va pas améliorer les relations entre le gouvernement français et la dictature. Justement, c'est important, l'écho dans l'opinion internationale. Sans l'écho international, les maires n'auraient pas survécu. En 1978, voici qu'est organisé le mondial en Argentine. Le thème du boycott affleure ici et là, n'est pas retenu. Et la joie éclate en Argentine quand au moment de la finale, l'équipe nationale l'emporte sur celle des Pays-Bas.
Argentino Bartoli ! Argentina 3, a los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario, Argentina 3, Holanda 1.
Le speaker de la radio nationale enthousiaste imagine-t-il que ce qu'il crie et ce que crie le stade peut être entendu par des disparus? Certes pas.
Je pense qu'il peut s'en douter parce que l'ESMA, donc, est un grand camp militaire et aussi un énorme camp de disparition, est à quelques mètres du stade de foot de River Plate. Et effectivement, c'est un motif de torture psychologique en plus pour les disparus qui sont encore enfermés là et qui entendent les échos des Gaules. Et les tortionnaires leur disent, vous voyez, le monde entier vous a oublié, etc. Mais... Et ils retournent un slogan parce qu'il y avait des réclamations de la part d'organismes de défense des droits de l'homme. Et donc, l'Argentine scandait, nous autres Argentins, nous sommes droits et humains.
Mais les mères sont un peu plus nombreuses en 1978.
Oui, environ 2000, on dit, sur la place de Mai, qui alors sont pas toutes des mères, mais parfois des sœurs, des tantes, des femmes solidaires qui sont là pour réclamer.
Des grands-mères, le mouvement des grands-mères est né à la fin de 1977. Et l'organisation progresse un peu. Elle dispose d'une sorte d'appartement à moitié clandestin, rue Uruguay. C'est là que viennent leur rendre visite en 1980, autre étape de l'écho international du mouvement, quelques musiciens de l'orchestre de Paris. Le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing est embarrassé par la situation en Argentine. D'un côté, défense des droits de l'homme, de l'autre côté, maintient des contrats avec l'armée de l'air. D'ailleurs, le ministre du budget est envoyé en mission en 1979. Il s'appelle Maurice Papon, rétrospectivement. Un drôle de choix. Daniel Barenboim, qui dirige l'orchestre de Paris, se trouve être israélo-argentin et un peu en délicatesse avec l'Argentine, puisqu'il n'a pas fait son service militaire. Peut-être craint-il d'être arrêté. Un livre d'Esteban Bouc vient d'être publié aux éditions du Seuil sur cette tournée de l'orchestre de Paris qui prend des aspects d'incidents diplomatiques à cause donc de la visite de ces musiciens et surtout du comportement de certains d'entre eux à la réception du 14 juillet. Et le 16 juillet, au Teatro Colonne, va être interprétée la 5e symphonie de Mahler. On l'entend ici avec Barenboim dans la version de l'orchestre de Chicago, laquelle commence par une marche funèbre. L'interprétation va donner lieu à une interminable ovation de 10 minutes dont on ne sait pas si elle tient aux félicitations à l'enfant prodigue, à l'enthousiasme devant l'orchestre ou peut-être à des motifs politiques.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Alice Verstraten, qui a publié chez Hermann un livre, Disparition et témoignages sur le mouvement des maires de la place de Mai, qui va évidemment prendre une nouvelle ampleur à partir du moment où, au lendemain de la guerre des Malouines, la dictature argentine tombe et est remplacée par un gouvernement démocratiquement élu, celui de Raoul Alfonsine, qui prend un certain nombre d'initiatives que les maires pourront d'ailleurs peut-être discuter.
Oui, alors le gouvernement d'Alfonsine est arrivé au pouvoir suite à une négociation des militaires qui ont négocié la fin de la dictature en échange de lois d'auto-amnistie. Ce qui a un petit peu contaminé, on va dire, le gouvernement d'Alfonsine. Il y a une espèce de continuité symbolique du coup entre la démocratie et la dictature qui engendre un certain rejet de la part des victimes. Alfonsine a quand même fait campagne sur les droits humains, beaucoup, et très rapidement, il encourage la commission, la CONADEP, la Commission Nationale pour la Disparition des Personnes.
Qui est créée par son gouvernement.
Voilà, qui est une commission gouvernementale, donc qui recueille un certain nombre de témoignages, mais pas tout, parce que beaucoup de gens, une fois encore, sont totalement défiants face à l'État. Mais c'est la première fois qu'on voit émerger des témoignages, et pour les familles, c'est un moment très difficile, parce que on comprend que vraiment les disparus ne reviendront pas vivants.
Et puis il y a aussi des campagnes d'exhumation avec la découverte des premières fosses communes.
Les premières fosses communes sont ouvertes au bulldozer. Donc il y a une espèce de sensationnalisme comme ça. Regardez les crimes de la dictature, nous on va passer à autre chose, on va nettoyer tout ça, on va assainir, on va réconcilier. Le problème de ces fosses communes ouvertes au bulldozer, c'est que ça broie les preuves. Donc à la suite de ça, il y a une équipe qui se forme, qui est l'équipe argentine d'anthropologie légiste, qui vient soutenir les maires de la place de Mai et les organismes de défense des droits de l'homme dans la recherche systématique et scientifique de preuves pour pouvoir faire reconnaître le crime de disparition
forcée. Et les premiers procès ont lieu, mais vous avez employé le mot sous le signe de la réconciliation, avec l'idée qu'il y a deux démons à purger, les guérilleros violents et les dictateurs tortionnaires. C'est l'époque, 1985, où est tourné le film L'Histoire officielle, qui a eu tant d'écho, un Oscar à Hollywood, le film de Luis Puenzo, et qui raconte la prise de conscience de la question par une mère appropriador. C'est-à-dire, les appropriadores, ce sont les parents qui ont accepté, sachant ou ne sachant pas, des enfants. Ils sont quelques 500, ces enfants, au moment et au lendemain du coup d'État.
On estime à 500 le nombre de bébés qui ont été volés par la dictature argentine, donc des enfants de ces jeunes femmes qui avaient été enlevées enceintes ou avec de jeunes enfants. Elles étaient maintenues en vie jusqu'à leur accouchement, puis assassinées. On leur prenait leurs bébés et on les inscrivait avec de faux documents d'État civil, comme enfants biologiques, des tortionnaires de leurs parents, des assassins de leurs parents, ou de leurs complices, ou de leurs amis. Et dans certains cas, c'est des enfants qui ont été emmenés plutôt dans des réseaux chrétiens d'adoption.
La mère du film, elle est prof d'histoire géo, elle entend ses élèves qui commencent à se poser des questions, elle s'en pose elle-même, et je pense qu'elle va reconnaître le fait qui s'est produit. Elle n'était pas au courant des conditions de l'adoption. Il y a d'autres cas extrêmement complexe, vous vous intéressez aux zones incertaines. Evelyne, par exemple, elle refuse la prise de sang qui pourrait identifier ses parents réels. La Cour suprême dit qu'elle a raison de refuser la prise de sang. Mais après, les preuves génétiques peuvent être obtenues de manière autre. Par exemple, avec des objets qui ont été en contact avec la personne, on va perquisitionner chez elle pour prouver qu'elle est la fille naturelle de militants révolutionnaires. Et elle choisit de garder le nom de ses appropriadores.
Voilà, en général, les juges laissent le choix aux jeunes, enfin de moins en moins jeunes maintenant, ils ont la quarantaine, le choix de quelle identité ils veulent se reconstruire en connaissant maintenant l'intégralité de l'histoire. Mais on estime nécessaire qu'ils connaissent l'intégralité de l'histoire. Les psychologues sont mis d'accord sur cette idée-là, et de plus en plus les juges suivent l'idée qu'ils doivent connaître leur histoire et qu'ensuite ils choisissent. Parfois c'est le premier prénom et celui que leur avaient donné les parents de naissance, et le deuxième est celui que leur avaient donné les parents d'adoption ou d'appropriation. Et beaucoup rejettent au final complètement leur identité d'appropriation parce que c'est construit sur un mensonge et qu'on les a traités comme des objets, comme un butin de guerre.
Zone grise, zone incertaine, vous avez exploré avec Cécile Verstraten le cas de Victor Bastera que vous avez interrogé. C'est un détenu qui a échappé à la mort, qui s'est retrouvé employé aux écritures à l'ESMA et qui va, passant un peu pour un idiot, subtiliser des photos. Parce que pour chaque personne qui l'enregistrait, il avait à faire un certain nombre de photos. 4 par exemple, ben lui il en faisait 5.
J'imprimais 5 photos.
La quinta photo no iba a ninguno de esos documentos.
La cinquième n'allait nulle part.
Esa foto yo la escondía en un papel fotosensible.
Cette photo, je la cachais dans le papier photosensible.
Papel photosensible, cuando venían y hacían las requisas, a ver si uno guardaba cosas, o que uno nunca guardaba nada.
Quand ils venaient faire leur fouille pour voir si on ne gardait rien. On ne gardait jamais rien, bien sûr.
Los tipos, lo único que no revisaban era el papel photosensible, porque es muy caro. Al principio ni sabía por qué lo hacía.
La seule chose qu'ils ne fouillaient pas, c'était le papier photo, car c'était cher.
Ni sabía.
Au départ, je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Je ne savais même pas. Enfin, j'avais une vague intention. Je le faisais comme un acte réflexe de rébellion. Comme les gosses, tu leur dis « touche pas ça » et ils touchent. Bien sûr, pour moi,
s'ils
me pinçaient, ça signifiait la mort instantanément.
L'intention quand même qu'il avait et qu'il développe, c'est celle de documenter. Alors, on lui doit beaucoup en matière de documentation. En même temps, quand il est libéré à demi, libéré définitivement en 83, il peut être entouré de suspicions. Qui était-il vraiment ?
Quand les premiers survivants émergent à la lumière, il y a d'abord un mouvement de rejet chez les mères de disparus. Parce que pourquoi eux réapparaissent et pas mes enfants ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réapparaître ? Est-ce qu'ils ont collaboré ? Est-ce qu'ils ont vendu le nom de leurs collègues, etc. La suspicion est encore plus grande autour des femmes. On les soupçonne de s'être prostituées pour survivre. Or, je crois que tout ça, c'est une incompréhension fondamentale de ce que c'est que vivre détenue, disparue, avec des en face à soi des tortionnaires qui sont maîtres de notre vie et de notre mort, et qui effectivement se servent parmi les femmes comme de la chair fraîche. Et Victor a eu l'occasion de survivre. On lui a proposé de travailler comme esclave, il le dit, pour ses tortionnaires, et les autres détenus qui étaient avec lui à ce moment-là dans le camp, lui ont dit « Si tu as l'occasion, fais-le et arrange-toi pour qu'il ne puisse pas se la ramener. Arrange-toi pour ramener des preuves, ramener quelque chose. » Donc il se sentait mandaté. Mais en même temps, il y a toujours évidemment pour lui cette douleur de se dire est-ce que j'ai penché la ligne rouge ? Est-ce que je collabore ? Parce que oui, il leur a fait des faux documents qui leur ont permis de pratiquer leurs activités mafieuses pendant un certain temps.
Mais beaucoup des mères de mai étaient suspicieuses. Parmi celles qui parlent de prostitution, Hébé de Bonafini, qui a ensuite dirigé les mères de mai, ligne fondatrice. On ignore complètement en France qu'il y a eu une scission à partir de 1986. Alors, entre les mères de
Hébé de Bonafini, c'est justement pas la ligne fondatrice, c'est l'autre ligne. Il y a pas de souci. En fait, à partir de 1986, le mouvement commence à se diviser un petit peu. Bon, comme tout mouvement humain, il y a des dissensions. Et face aux propositions du pouvoir, notamment de faire des réparations économiques, de donner de l'argent en échange, si on veut, de la disparition des gens, pour compenser, alors qu'on estime que c'est incompensable, c'est un crime contre l'humanité, et donc c'est irréparable, les familles se déchirent. Il y en a qui disent oui, c'est une reconnaissance minimale, c'est à côté de la plaque, mais c'est mieux que rien. Et d'autres qui disent non, toucher le sang de ses enfants, de l'argent, pardon, pour le sang de ses enfants, c'est se prostituer. Il y a d'autres motifs de dissension, c'est savoir si on prolonge plutôt les idéologies politiques des disparus, ou si on se place plutôt du côté de la défense des droits humains. Et donc la ligne fondatrice des mères défend plutôt la défense des droits humains, reste dans l'idée qu'il y a des mères qui étaient elles-mêmes issues de familles militaires, qui étaient elles-mêmes de gauche, de droite, chrétiennes, juives, et qui sont ensemble face à un crime contre l'humanité.
Le risque étant la fragmentation des mémoires. Si on dit celui-là, il appartenait à un mouvement, il faut le dire, il faut le reconnaître,
alors,
le proclamer.
C'est un cheminement qui s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, on arrive à vraiment une histoire des mouvements politiques. Pendant tout un temps, ça a été étouffé à cause de la fameuse théorie des deux démons, qui était que finalement, les militaires avaient commis des excès, mais c'était contre des terroristes, et contre des terrorismes, il n'y a pas d'autre solution que le terrorisme d'État. C'était ce qui était défendu par le pouvoir. Face à ça, ils ont plutôt occulté la militance politique pendant un temps pour être reconnue comme victime d'un crime contre l'humanité.
Alors, vous dites à plusieurs reprises dans notre entretien, Alice Verstraeten, qu'elles vieillissent. Il faut des relais. Les relais, ça va être souvent les hommes. Il y a quand même des hommes dans la nébuleuse, des mères et des grands-mères de
mai. Il y en a, les pères de la place de mai, qui ne sont pas assez reconnus, qui accompagnent leurs femmes. Mais c'est vrai que dans un premier temps, tout simplement, un homme qui faisait ce qu'elle faisait aurait eu beaucoup plus de chances d'être exécuté qu'elle n'en avait.
Donc il y a des fils et des frères.
Il y a des fils et des frères. Le mouvement Hijos a été notamment fondé à égalité par des filles et des garçons. Donc Hijos est né en 1995. Le temps que les enfants de disparus grandissent, c'est la génération des enfants de disparus et de prisonniers politiques et d'exilés. Là, ils sont totalement à égalité. Il y a aussi une évolution. Les mères disent beaucoup, les hommes, à cause d'un machisme mal interprété, ne pleurent pas, ne font pas la catharsis que nous, on a pu faire sur la place de mai. Nous, on a réussi à construire une fraternité à partir de la disparition. Une sororité à partir de la disparition.
Une histoire qui a tant de fins et qui n'en a aucune. Votre livre, Disparition et témoignages, c'est aux éditions Hermann. Merci à vous, Alice Verstraeten. Cette émission a été préparée par Franck Olivard et par Nathan Gallo, avec Frédéric Martin à la réalisation, Valérie à Estaraï, à la technique Loïc Frapsos. Et maintenant, chez vous, Mathieu.
Oui, Jean, vous le savez, il y a eu de grandes empoisonneuses dans l'histoire. Eh bien, nous allons parler non seulement des empoisonneuses, mais des poisons en général dans la nature à l'occasion d'une expo en ce moment à Lyon.
Vénénum.